La réponse de l'océan par Chris G. Vero. J'évite, autant que faire se peut, de me rendre dans les régions côtières de ma belle Angleterre. Cette crainte avait toujours amené de longs questionnements de la part de mes proches et de mes amis. Je parvenais toujours à éviter le sujet où je trouvais une raison pour expliquer mon désamour de l'océan. En fait de désamour, ces vastes étendues liquides m'inspiraient une terreur glacée. Sous les flots mouvants, je pouvais apercevoir la graine de mes cauchemars, l'origine de mon horreur envers les murmures des vagues refluant sur la berge. Mon meilleur ami, Padraig, savait d'où me venait cette répugnance, car lui et moi avions servi ensemble dans la marine royale durant plusieurs années. C'était d'ailleurs là une source de questionnement supplémentaire de la part de mes proches. Je suis en effet un marin chevronné. Je m'étais engagé très jeune, ayant plus de famille, morte de maladie. Je pouvais rejoindre un orphelinat ou entrer dans la marine. Padraig m'avait suivi dans cette volonté de fuir notre vie si misérable. Dans notre naïveté, nous nous étions persuadés que nous embarquions dans une incroyable aventure qui nous amènerait à tous les coins du monde. Nous allions voir les merveilles des Amériques, les eaux translucides des mers espagnoles, les côtes blanches et immaculées des pôles. Notre vision du monde était à la mesure de notre âge, féerique et imaginaire. Mais rapidement, nous comprîmes que la vie sur les flots n'avait rien de poétique ou d'agréable. De fait, Padraig le résuma mieux que moi alors que nous nous dirigions vers une nouvelle journée de corvée. Je crois que le prix de notre engagement sera notre jeunesse. Nous embarquâmes sur le navire Médusa en avril 1805. Il n'y eut pas de réelle sélection lorsque nous nous présentâmes. Après tout, que pouvions-nous prouver du haut de nos 15 ans? Toutefois, le capitaine Howard fut très clair avec nous lorsque nous lui confessâmes nos raisons d'embarquer. Écoutez, gamin, la vie sur l'eau n'a rien d'agréable. Vous allez en baver et je ne ferai aucun cas de votre jeune âge. Si vous mentez, comprenez que mes ordres ne font pas objet de discussion ou de débat. Il n'y a pas de démocratie à bord. Le ton était donné. Padraig ne bougea pas d'un cil, conscient de ce en quoi il s'engageait. De mon côté, j'étais un peu plus nerveux. Je me retrouvais devant un bâtiment gigantesque de bois, de métal et de chanvre, flottant placidement et par moments, lâchant un craquement sonore comme un prédateur endormi, rêvant d'une chasse glorieuse. Lâcherait un grognement dans un demi-sommeil. Padraig mit sa main sur mon épaule et me sourit, sachant que son optimisme agaçant pouvait me faire rendre les armes très rapidement. Ma nervosité tenait davantage au fait que je ne connaissais rien du monde sinon le quartier londonien de Whitechapel. Partir ainsi sur la trace des grands explorateurs ne me semblait alors pas destiné. Padraig, lui, ne se questionnait pas autant. Il avait toujours eu un amour irraisonné pour les navires du port de Londres. Il pouvait faire des détours invraisemblables juste pour pouvoir admirer quelques minutes les bâtiments marchands déployer leurs ailes et avancer fièrement vers les tourments de l'océan. Ainsi, il ne réfléchit pas longtemps à l'offre du capitaine Howard et nous embarquâmes. Nous découvrîmes une hiérarchie stricte et autoritaire. Nous étions tout en bas de l'échelle, les deux nouveaux mousses. Le reste de l'équipage nous accueillit avec chaleur, conscient de notre jeunesse et notre naïveté. Un grand homme, maigre, à faire peur, se dirigea vers nous et nous tendit la main. « Salut, gamin. Je suis Willam. Je fais partie de l'équipe des Gabiers. Vous serez sous mes ordres désormais, et j'espère que vous n'avez pas le vertige. » Il s'en alla sur ces mots, nous laissant plutôt interloqués. Un autre marin s'approcha de nous. Vous n'avez encore jamais mis les pieds sur un navire de ce genre, n'est-ce pas? Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Notre guide s'appelait Wilbur, un homme puissant portant une épaisse barbe rousse. Il nous fait découvrir les entrailles du Médusa avec l'enthousiasme d'un enfant. À l'entendre, ce navire était sa création et il en concevait une grande fierté. Willam sera votre supérieur, mais moi je suis le supérieur de Willam. Je suis le chef gabier sur ce bâtiment. Notre responsabilité est de nous assurer que ces mâts tiennent bon. Nous devrons les inspecter chaque jour. Normalement, au vu de votre âge, vous auriez dû passer sous l'autorité de la maîtresse. mais nous manquons cruellement de gabier. Donc, vous passerez sous les ordres de William et moi-même. Nous assurerons votre formation. Et ainsi nous commençâmes sans plus de procès à apprendre ce qui deviendrait notre quotidien à bord du Médusa. Notre apprentissage fut douloureux et difficile. Appréhender et comprendre le fonctionnement des manœuvres d'un tel bâtiment n'était pas chose aisée. De plus, nos formateurs nous firent comprendre que la moindre paresse ne serait pas admise à bord. Même si la vocation première du Médusa n'était pas le combat, devoir se défendre contre un assaillant n'était pas quelque chose de rare, une fois la sécurité du port laissée derrière nous. Nous vivions une époque de guerre, et le voisin français nous défiait sur sa maîtrise de la mer de façon quotidienne. Notre fierté d'anglais nous commandait de ne pas laisser cela impuni. La fin de nos cœurs nous laissait vider de toute énergie. Nos mains étaient meurtries par la répétition des mouvements. Les cloques et les ampoules les recouvraient, nous arrachant des plaintes sourdes pendant notre sommeil. Mais c'était là le prix à payer si nous voulions nous acquitter de notre tâche et être acceptés à bord comme des atouts de l'équipage, et non pas des poids morts. Le mois suivant, en mai 1805, l'ordre fut donné de lever l'ancre. Nous allions prendre la direction des eaux espagnoles en qualité de vaisseau de ravitaillement. Les Espagnols, alliés des Français, jouissaient encore d'une grande renommée, et nous réalisâmes, Padraig et moi, que nous devrions peut-être prendre part au combat. Bien entendu, en notre qualité de novice, nous ne dépendrions pas d'une unité combattante. Mais dans la logique d'une bataille navale, les adversaires ne faisaient que peu de cas des affectations des hommes à bord. Ainsi, nous découvrîmes les sensations nouvelles de la navigation. Le mouvement de tangage, le navire qui prenait les vagues, l'impression d'être suspendu dans le vide alors que le bâtiment virait de bord. J'éprouvais un réel plaisir à naviguer, comme si je me découvrais une vocation à défier l'océan. Mon corps ne rejetait pas le mouvement incessant du bateau. J'adoptais naturellement les postures des marins, conservant mon équilibre même alors que la houle se faisait plus forte. Pareillement, les ascensions répétées le long du mât ne m'étaient pas douloureuses ou difficiles. Je m'étais découvert une agilité insoupçonnée. Padraig, de son côté, avait beaucoup plus de mal à s'acquitter de sa tâche, plus lourd et puissant que moi. Monter les longs des lignes lui était pénible. À l'évidence, il n'était pas fait pour cette besogne d'équilibriste. Il craignait ainsi d'être débarqué, puisque perçu comme inutile. Mais c'était mal connaître Wilbur. Alors que Padraig me faisait part de son angoisse de devoir quitter le navire, le colosse à la barbe rousse vint lui taper sur l'épaule. « Gamin, sais-tu quel était mon poste quand j'ai embarqué la première fois sur ce navire ? J'étais servant de canon. Seulement, cela réclamait d'être enfermé au milieu des bouches à feu, alors que les batteries tiraient à tout va. Je suis un garçon de l'extérieur, je n'aime pas être confiné et en rang serré. Ainsi, lorsque j'ai découvert la fonction de gabier, j'ai fait tout mon possible pour être affecté. Cela fait maintenant 15 ans que je remplis ce devoir. Ne te laisse pas abattre si ce métier n'est pas pour toi. Tu auras bien d'autres occasions de te rendre utile. » Incinéré par ces paroles, Padraig fit de son mieux pour s'acquitter de ses tâches, tout en cherchant une voie qui lui conviendrait mieux. Ce fut le plus proche ami de Wilbur, Amos, qui proposa à Padraig d'intégrer ses effectifs de canonnier. Car si ce dernier n'était pas le plus agile ou le plus souple, il en avait surpris plus d'un par sa puissance démesurée pour un garçon de 15 ans. Ainsi, Padraig quitta son affectation de gabier pour travailler dans les entrailles du Médusa. Et à chaque fois que je le revoyais, son sourire réapparaissait. Il avait, comme moi, trouvé son but. Nos objectifs étaient clairs alors que nous arrivions en vue des côtes espagnoles. Le Médusa ne prit pas directement part aux batailles navales, et nous ne manquâmes rien des affrontements rageurs. Les formations complexes s'engageaient dans des combats d'une incroyable brutalité. Nous pouvions voir la mer s'embraser alors que les pièces d'artillerie crachaient leur venin de plomb et de mitraille. Bien qu'en sous-nombre, la couronne repartit victorieuse de cet affrontement. Je me souviens encore des paroles de Wilbur alors que les flottes françaises et espagnoles quittaient les eaux de Galice. « Nous sommes chanceux, gamin. Aujourd'hui, nous remportons la victoire sans combattre, mais prépare-toi, ça ne sera pas toujours le cas. J'ai vu trop de combats pour te noyer de naïveté et de faux espoirs. Un jour, tu devras toi aussi défendre ta vie avec un sabre dans la main. Et ce jour-là, tu ne devras pas hésiter. » En quelques mois, j'avais gagné la confiance de mes supérieurs. De fait, j'avais même reçu le surnom d'homme volant chez les gabiers. En vérité, je ne me voyais pas faire autre chose. La sensation de virevolter au-dessus des eaux était tout ce que je voulais ressentir. Je passais de l'un à l'autre des mâts comme un oiseau passait de branche en branche, légèrement et à sa guise. Dans ces moments, je me disais que l'idée de Padraig d'embarquer sur ce navire avait été guidée par le ciel. Sans aucun doute, je le voyais comme mon ange gardien, et nous nous acquittions de nos missions avec énergie. Wilbur ne tarissait pas d'éloges à mon sujet, et me soutenait que je pourrais devenir chef gabier si je continuais mes efforts. Padraig, de son côté, donnait tout ce qu'il avait dans l'espace étroit des canonniers. Lui aussi semblait penser que notre choix de nous engager n'aurait pu être meilleur. Pourtant, une de nos missions allait devoir remettre en cause notre engouement et notre volonté de servir dans les rangs de la marine. Cette même mission qui allait déclencher mon horreur de la mer. Nos nouveaux ordres de mission nous envoyèrent dans les eaux du Pacifique. Nous vîmes, pour la première fois, les eaux bleues de cette partie du globe. Nous deux, petits londoniens, qui n'étaient jamais sortis de notre quartier. L'air était chaud, et le vent soufflait avec force. Lorsque nous arrivâmes en vue du golfe du Bengale, je pensais être arrivé dans un monde étranger au mien. La profusion de couleurs était telle que je m'étais demandé à ce moment si je n'étais pas tombé malade et délirant de fièvre. Le capitaine Howard vint me frapper l'épaule tout sourire. Voilà un paysage que tu ne verras pas dans notre bonne vieille Angleterre. Voilà les colonies indiennes et notre port de destination, Madras. Nous posions le pied à terre pour la première fois depuis plusieurs mois. La chaleur nous écrasait littéralement alors que l'équipe de gabiers découvrait les rues de Madras. La seule chose qui me retenait encore à mon ancienne vie était le Médusa que je pouvais encore apercevoir à distance, amarré au port. On me fit découvrir des spécialités locales, l'une d'elles appelée curry. Ma bouche explosa tellement cette recette était forte. Mon palais anglais n'avait jamais été entraîné à supporter une nourriture aussi pimentée. Pourtant, je retournai au comptoir immédiatement après avoir fini mon assiette. Ma langue était en feu, mais ce supplice était délicieux. Padraig n'en menait pas plus large que moi. Lui avait complètement viré au rouge pivoine à mesure qu'il dégustait son assiette, au point que l'équipe se demandait s'il n'allait pas simplement s'effondrer. Mais notre relâchement ne fut que de courte durée. Une grande silhouette pénétra dans les chopes et toute la table se leva comme un seul homme. Le capitaine Howard nous fit signe de nous rasseoir. Son expression était fermée comme s'il essayait de solutionner un problème complexe. Alors que nous continuions notre festin, il sortit une enveloppe de sa veste et se plongea dans sa lecture. Ses sourcils se fronçaient à mesure qu'il lisait, comme s'il s'agissait là d'une missive porteuse des pires nouvelles possibles. Il finit par pousser un long soupir, replia le papier et le rangea dans sa veste. Sans même nous parler, nous comprîmes qu'il s'agissait là d'un nouvel ordre de mission et que cette dernière ne serait pas facile à exécuter. Sous son aspect d'homme dur et à cheval sur la hiérarchie, rien ne répugnait le capitaine davantage que de mettre la vie de ses hommes en danger. Cette expression qu'il portait me rappelait celle qu'il arborait alors que nous naviguions vers la Galice, à la veille de la fameuse bataille qui fut remportée par la couronne. Lorsqu'il releva les yeux pour nous regarder tour à tour, nous nous crispâmes inconsciemment, car son regard n'était pas empli de colère ou d'incompréhension, mais plutôt de regret. Après quelques instants, il se décida à nous annoncer la nouvelle. « Garçon, j'ai reçu notre nouvel ordre de mission. Nous allons partir à la recherche d'un navire disparu dans le golfe. Normalement, nous ne devrions pas en avoir pour très longtemps, mais c'est notre destination qui me pousse à vous prévenir à l'avance. » Ferons route vers les îles Andaman. Le silence tomba sur notre table comme une averse soudaine de mousson. Je regardais les marins autour de moi avec une incompréhension manifeste qui fit sourire le capitaine. Il est vrai que tu nous as tout juste rejoints. Tu n'as pas encore l'esprit empli des vieilles histoires de marins. Laisse-moi t'expliquer. Il y a une dizaine d'années, alors que j'étais officier, nous avions été envoyés dans ce même port de Madras. Mais notre route n'était pas terminée. Nous devions ensuite rejoindre Port Blair, situé justement sur ce petit archipel des îles Andaman. Seulement, durant la traversée, une tempête nous a pris par surprise. Elle fut tellement soudaine que nous perdîmes 3 gabiers en quelques minutes. Le courant et les vents violents nous poussèrent vers une petite île. Si cela n'avait pas été pour la maîtrise de nos officiers de navigation, nous nous serions échoués. Mais Ils parvinrent à mettre le navire en panne et nous échappâmes à un bien funeste destin. Moins d'une heure plus tard, la tempête avait disparu. Les vents hurlants avaient laissé la place à une brise légère et les pluies dignes du déluge s'étaient complètement dissipées. Nous étions en proie à une inquiétude sourde. Quelle était cette tempête? D'où pouvait-elle provenir sinon de quelque enfer? Apparue seulement pour tourmenter les navires qui s'aventuraient dans ces régions maudites. Mais nous n'eûmes pas le temps de nous questionner davantage. À quelques encablures de notre vaisseau, la terre était apparue. Notre capitaine vérifia ses cartes. La tempête nous avait poussés à plusieurs milles hors de notre itinéraire, au point de nous retrouver du côté opposé de l'archipel Andaman et de notre destination, Port Blair. Devant nous, nous avions une île minuscule dont nous connaissions même pas le nom. Et alors que nous aurions dû nous sentir soulagés d'être saufs, l'équipage entier ressentit une étrange sensation de répulsion et d'inquiétude à la vue de cette émergence de terre. C'était comme si tous nos sens nous prévenaient que cet endroit serait notre perte. Autour de la table, plus personne ne mangeait, et je suis à peu près certain que la moitié d'entre nous avait tout bonnement cessé de respirer. Les dégâts infligés à notre navire étaient plus impressionnants que réellement handicapants, et nous n'avions pas d'autre choix que d'accoster pour effectuer quelques réparations. Nos menuisiers avaient besoin de stabilité pour s'occuper du mât endommagé. 2 heures après avoir mouillé l'ancre, des hommes donnèrent de la voix alors qu'un spectacle étrange se déroulait devant nos yeux à tous. Une forêt épaisse empêchait de voir au-delà de 20 yards dans les terres. Mais entre les branches, des lueurs rouge-orangées étaient apparues, dansantes, entre les ombres. Mais même équipé de ma meilleure longue-vue, je ne pouvais rien discerner de ces étranges manifestations. Quelques instants après l'apparition des lueurs, des rumeurs sourdes nous parvinrent au gré du vent. Puis ce furent des voix qui se manifestèrent, une sorte de cœur sombre et grave. Nous entendâmes un cri perçant provenant des hauteurs du grand mât, puis un bruit sourd. L'un de nos gabis avait été atteint par un trait tiré depuis l'île. Ce dernier l'avait atteint, en plein cœur. La peur succéda à l'incompréhension. La flèche ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu connaître. Elle était longue et épaisse, davantage à l'image d'une lance. Pourtant, les plumes longues et noires à son extrémité ne laissaient aucun doute quant à sa fonction. Des sifflements lugubres nous passèrent à quelques mètres au-dessus de la tête et je finis par réagir. J'ordonnai à mes soldats d'armer leurs mousquets et de faire feu à volonté, puis lancer l'alerte à mes batteries de canon. Il nous fallait appareiller au plus vite, car si notre puissance de feu était bien supérieure à celle de nos assaillants, nous n'avions aucune idée d'où ils se trouvaient. Ils avaient l'avantage de la surprise et du terrain. Mes hommes s'éparpillèrent sur tout le bâtiment, battant sans doute le record de l'appareillage le plus rapide de l'histoire de la marine britannique. Moins de 15 minutes plus tard, le bateau s'éloignait de la côte, tout en lâchant une bordée de canons en direction de l'île. Mais ce tir n'était réalisé que pour couvrir notre fuite. J'étais resté figé, suspendu aux lèvres du capitaine. Puis nous finîmes par nous lever, l'estomac et la tête remplis. Alors que nous regagnions le Médusa, je gardais à l'esprit l'histoire du capitaine. Qui étaient ces êtres qui avaient attaqué le navire ? Comment étaient-ils parvenus à créer une telle peur chez des marins chevronnés dont certains avaient participé à davantage de batailles que je n'avais fêté d'anniversaire ? Padraig et moi avions senti le changement brusque dans l'atmosphère sur le bateau. À mesure que la nouvelle se propageait dans les rangs, nous pouvions voir les traits des hommes se tirer et se crisper, comme s'ils venaient d'assister à une scène horrifique. Les souvenirs semblaient encore très vivaces dans leurs esprits. Devant leurs yeux repassait la scène. La tempête biblique, les lueurs dansantes sur l'île, le gabier qui s'écrasait sur le bois du pont. Bien que notre curiosité morbide ait été indubitablement excitée par le récit du capitaine, nous avions compris que les hommes ne souhaitaient pas en parler, à l'exception de Wilbur. Ce dernier ne faisait que peu de cas des superstitions de marins. Je ne pense pas qu'il y ait des démons sur cette île, encore moins un diable quelconque. Je pense qu'on a dérangé une peuplade en plein dîner et qu'ils se sont vengés à coups de lance. De tous les membres de l'équipage, Wilbur était le plus terre à terre. Il y avait toujours une explication logique et un phénomène. Padraig, tu utilises tous les jours de la poudre à canon, mais avant que nous ne l'utilisions, elle était considérée comme démoniaque. La magie des uns et la science des autres. Malgré ces paroles, Padraig et moi, nous pouvions dissimuler notre inquiétude. Nous étions encore des novices après tout. Personne ne pouvait blâmer notre crainte ou notre appréhension. La nuit suivant notre appareillage, je ne dormis qu'à peine. J'étais assailli d'images violentes et sordides. Alors que j'avançais sur le pont du Médusa, des éclairs lointains firent entendre leur fureur d'une façon singulière. Car si je pouvais distinctement voir les éclairs, je ne distinguais aucun nuage dans le ciel pourpre. Devant le navire se dressait soudainement une île, comme vomie par les fonds marins. L'écume rouge sang se répandit sur le pont, descendant dans les cales. Je pouvais entendre les cris des marins prisonniers, impuissants devant la force des éléments et promis à une mort certaine. J'étais tout aussi impuissant qu'eux. Je ne pouvais que subir les assauts des vagues étranges et prier pour que j'y survive. Je me redressai brusquement dans mon hamac, baigné d'une sueur froide. La cloche de quart sonna plus haut sur le pont. Je pouvais sentir la houle faire doucement tanguer le navire. Il prenait le vent légèrement de travers, ralentissant volontairement son allure. Je ne reconnaissais que trop bien ce type de manœuvre. C'était l'itinéraire traditionnel de notre capitaine lorsqu'il fallait opérer avec une approche prudente. L'île était en vue. Sans plus attendre, je montai sur le pont malgré mon inquiétude. La curiosité fut bien plus forte et je me devais de voir ce spectacle. Peut-être que le discours de Wilbur m'avait influencé plus que je ne l'aurais pensé. Mais je ne lui trouvais rien d'exceptionnel ou de démoniaque. Il s'agissait là d'une bande de terre commune, ramassée sur elle-même. Il était surprenant de penser que des gens pouvaient même vivre sur une si petite parcelle. Cela ressemblait davantage à une île déserte, morceau détaché du continent et emmené au loin par les courants de la mer. Je pouvais sentir un poids se lever de mes épaules. Sans doute les récits de mes partenaires avaient été embellis, peut-être avaient-ils brodé quelque peu autour de cet événement marquant. La mort brutale du malheureux Gabier a pu choquer ceux qui étaient restés présents, et l'imaginaire a fait le reste. Sans aucun doute, ce morceau de terre était très commun. Je me tournai alors pour adresser un sourire au capitaine, ainsi que le féliciter de cette plaisanterie. Pourtant, de son visage ne transparaissait aucune malice, aucun amusement. Tout au contraire, il fixait intensément l'île au point que ses yeux ne semblaient plus vouloir cligner. Après quelques instants, il pointa brusquement du doigt la plage. « Regarde, gamin, regarde. Les voilà. Les premières lueurs. » Je m'étais précipité jusqu'au bastingage, plissant les yeux au plus fort que je le pouvais. Et après un court instant, je les aperçus. Apparaissant et disparaissant en gré des arbres proches de la berge, des points lumineux de couleur orangée et rouge brillaient doucement et se déplaçaient lentement le long de la plage. Le capitaine se saisit de sa longue vue et balaya la plage. Je pouvais voir les muscles de sa gorge se crisper à mesure qu'il cherchait à percer les ombres derrière les arbres. Il fit claquer sa langue contre ses dents, un signe révélateur de sa contrariété. « C'est foutu diable ce jour de nous. Je n'arrive pas à les voir précisément, mais je sais qu'ils sont là. À peine une de ces lueurs apparaît qu'elle disparaît dans la seconde. » Le capitaine fit sonner l'alerte sur tout le vaisseau. De là où j'étais, je pouvais voir les sabords s'ouvrir et les canons apparaître, sortant leurs têtes menaçantes à l'air libre. Autour de moi, les hommes d'armes s'activaient, se saisissant de leurs fusils à mousquet et les rechargeant à la volée. Tous semblaient être entrés dans un état second, une sorte de transe qui leur permettait, comme un somnambule, de pouvoir marcher ou courir dans son environnement tout en chargeant leurs armes sans jamais heurter un de leurs corps légionnaires. Je pris le temps, pendant quelques secondes supplémentaires, à admirer ce ballet magnifique de danseurs rompus à cet exercice d'une extrême précision. Ils savaient tous où aller, où se poster. Le capitaine se dirigea vers moi et me tendit sa longue vue. « Gamin, fais ton travail. Monte au grand mât et observe la plage. Si tu parviens à voir quoi que ce soit de plus que moi, tu cries et tout le navire t'écoutera. » Un frisson me parcourut l'échine. C'était là une responsabilité énorme pour mes jeunes épaules. De fait, des vies allaient dépendre de mes capacités d'observation. Je me hâtai vers le poste d'observation du grand mât. Toute l'atmosphère avait brutalement changé, de l'impression de légèreté que j'avais au moment d'observer ce bout de terre émerger, source de tant de craintes et de superstitions, à l'angoisse véritable de l'urgence. Déployant toute mon agilité, je grimpais à toute vitesse le long des cordages. À bout de souffle, je me hissais sur le plancher du poste d'observation et braquais la longue vue en direction de l'île. Les lueurs étaient encore là, passant derrière les troncs d'arbres, illuminant brièvement les silhouettes qui les portaient. Sans pouvoir les identifier formellement, je pouvais d'ores et déjà comprendre que quelque chose n'allait pas. Si je me fiais à la taille des arbres, les formes que je pouvais seulement apercevoir me semblaient disproportionnées, bien trop grandes et volumineuses pour n'être que des hommes. Peut-être avaient-ils des animaux de trait avec eux, ou peut-être des animaux d'attaque. Mais de quelles bêtes pouvaient-ils bien s'agir? Et d'où venaient ces bêtes? Je jetai un coup d'œil aux hommes qui s'agitaient sous mes pieds. Je pouvais voir le reflet orangé des flammes des torches se refléter dans l'acier des lames et des canons de mousquet. On aurait dit qu'une guerre se préparait. Je reportai mon attention en direction de l'île. Une exclamation m'échappa alors que mon regard se posait à nouveau sur la berge à la lisière des arbres. Cela ne dura qu'une courte seconde. Entre deux troncs, j'aperçus un visage, pointant à l'extérieur pour observer notre navire. Ce visage n'avait rien d'humain. Une peau grise et luisante, des yeux d'un blanc laiteux et un nez absent. Mais ce qui me coupa le souffle, c'était ce qui semblait être sa bouche, ou plus précisément ses dents. Ouverte comme une bouche de serpent, j'aperçus des dents oscillant entre le blanc et le bleu, pointues et droites, menaçantes, et sans doute capables de déchirer la peau de n'importe quel malheureux qui croiserait cette créature. Après quelques secondes d'hébétitude, je hélai le capitaine.
Aux armes! Aux armes!
Les mousquets se braquèrent en direction de l'île, les épaules des hommes tendues à l'extrême, leurs doigts s'approchant fébrilement de la queue de des tentes. Je posai à nouveau mon regard sur les berges sombres, et la face de cauchemar restait dans l'ombre. Avais-je rêvé? M'étais-je laissé abuser par les ombres et ma propre peur? Peut-être avais-je sonné l'alarme pour rien? Un brusque mouvement dans la pénombre me fit comprendre que je n'étais pas dans le tort. Il y avait même plus de mouvement un peu plus tôt, comme s'ils se regroupaient. Quelque chose siffla à quelques centimètres de mon oreille et je me jetai au sol. À peine m'étais-je accroupi derrière mon abri que plusieurs chocs secs se firent entendre, plantés sur le mât. Deux flèches vibraient encore de leur impulsion initiale. Elles étaient enfoncées jusqu'à la garde, au point que je doutais de pouvoir les extraire à la seule force de mes bras. De plus, leur taille hallucinante me faisait davantage penser à des lances, comme dans l'histoire que nous avait conté le capitaine. Pourtant, il s'agissait là à l'évidence des flèches, ainsi qu'en assistaient des plumes de couleur vive au bout de la tige. Quel genre d'arc pouvait tirer de telles flèches? Il me semblait bien difficile pour une tribu isolée de construire une baliste. Mais par-dessus tout, qui pouvait bien utiliser des flèches aussi titanesques? Rien qu'imaginer la taille de ces ennemis invisibles me fit frissonner. Un nouveau projectile se ficha dans la planche qui me servait d'abri, dévoilant une pointe de pierre taillée. Je reculai frénétiquement pour me coller contre la paroi opposée, du sang coulant le long de ma joue. Je ne pouvais rester là. J'étais une cible facile. Perché dans mon observatoire, et il me faudrait parier sur mon agilité pour me sortir de ce guépier. Je me jeta dans le vide et m'agrippa désespérément à la première corde que me rencontrèrent mes mains. Le frottement m'arracha un cri de douleur, mais je conservai ma prise. Si je devais lâcher à ce moment-là, j'irais m'écraser sur le pont du bateau, comme mon infortuné prédécesseur. Alors que je balançais dans le vide, de nouveaux projectiles sifflèrent tout autour de moi. Durant un court moment de désespoir, je lâchai un sanglot. Mourir ainsi, à 15 ans seulement, même si je savais que signer pour la marine pouvait s'avérer dangereux. Je ne m'étais pas imaginé quitter ce monde ainsi. Mais alors que j'attendais mon funeste destin, des craquements et explosions assourdissants retentirent. Le capitaine avait ordonné de faire feu. Les canons et les mousquets hurlèrent leur rage en direction de l'île. Toujours suspendu à ma corde, je pouvais voir sans aucun obstacle les impacts sur la berge et la lisière des arbres. Comme vomi des enfers, un démon de feu apparut, balayant tout sur son passage et s'évanouit dans le ciel de la nuit, ne laissant plus derrière lui que son immense habit de fumée. Des cris nous parvinrent alors, des sons issus de nos pires cauchemars, des voix discordantes, suraiguës et vibrantes. À ce cœur infernal répondit alors le cri de victoire de l'équipage. Je descendis jusqu'au pont, où je fus accueilli par le sourire radieux de notre capitaine. Bravo, gamin. Quel courage. Nous te devons la vie et cette magnifique victoire.
Mouillez les canots, rechargez vos mousquets et préparez vos lames, garçon.
Nous allons leur donner le coup de grâce. Et toi, gamin, viens avec nous. Nous aurons encore besoin de tes yeux perçants.
Sans véritablement comprendre ce qui m'arrivait, je me retrouvais embarqué par les bras puissants des soldats du bord et déposé dans un des canots qui allait se diriger vers l'île. En seulement quelques minutes, 5 canots prirent la direction de l'émergence de terre. Les soldats gardaient leurs fusils pointés en avant et n'attendaient que mon appel pour faire feu. Une fois encore, le capitaine m'avait chargé de garder l'œil sur les berges désolées par le tir des canons. Même s'il semblait improbable que quiconque ait pu survivre à un tel déluge de feu et de métal, rien ne devait être laissé au hasard. Nous ne savions rien de ces êtres qui nous avaient attaqués et peut-être disposaient-ils de renfort ailleurs sur l'île. Même si les hommes portaient encore un franc sourire sur le visage, aucun d'eux ne pipait mot. Ils étaient des soldats aguerris et savaient que crier victoire trop tôt pouvait signer leur condamnation à mort. Dans un silence uniquement perturbé par le son du reflux des vagues, les canots glissèrent sur le sable. La lune nous offrait suffisamment de lumière pour nous permettre d'avancer sans tâtonner ou allumer de torches qui trahiraient nos positions. Nous approchâmes des cratères laissés par nos projectiles. Quelques petites flammes crépitaient encore par endroits, comme des témoins de notre assaut. Un soldat lâcha un cri et fit signe de le rejoindre. Nous le rejoignîmes au pas de course pour nous retrouver devant un spectacle hallucinant. Un corps gisait à quelques mètres de l'un des impacts de canon. Rien ne nous avait préparé à cette scène. Le corps sans vie n'était pas humain. En fait, sa seule existence rebattait complètement les cartes des certitudes que j'avais sur le monde. Car même dans les histoires de mes compagnons, aucun monstre marin ne ressemblait à celui-ci. Grand comme une fois et demi un homme, épais et musclé, sa peau était grise, squameuse et luisante d'une étrange substance. Il partageait certains traits anthropoïdes, se déplaçant sur ses jambes. Mais la ressemblance s'arrêtait là. Son visage était monstrueux, tirant entre le crocodile et le serpent. Des yeux à la pupille verticale, un nez écrasé réduit à 2 petites fentes, et enfin, ce que je ne pus qu'identifier que comme des crocs. À l'aide de sa baïonnette, l'un des soldats ouvrit la gueule du monstre étendu au sol. Il découvrit plusieurs rangées de dents incroyablement pointues et brillantes. Une odeur méphitique de poisson avarié émanait de cette chose, et certains des hommes préférèrent se détourner. D'autres ne purent retenir leur nausée. Qu'avions-nous trouvé là? D'où pouvait provenir un tel monstre? Le capitaine se pencha à son tour sur la dépouille, inspectant avec soin chaque pouce carré du monstre. Il finit par pousser un cri étouffé en découvrant 3 larges fentes plus claires sur le côté de la gorge écailleuse.
Regardez, à moins que je ne me trompe, ce sont des branchies.
Quelques-uns se penchèrent, intrigués par ce nouveau mystère. Alors que de mon côté j'estimais en avoir assez vu, je me détournais de ce spectacle écœurant et me décidais à inspecter rapidement les environs. N'importe quelle raison était bonne pour m'éloigner. Les canons n'avaient laissé aucune chance à nos assaillants. Tout autour de moi, la plage n'était plus réduite qu'à une terre noire, incandescente et désolée. Puis, une idée me vint. Le capitaine Howard nous avait raconté que son équipage avait fui au premier jet de flèche. Ils n'avaient pas même essayé de riposter alors qu'ils avaient un très net avantage de puissance de feu. Certes, ces êtres avaient créé la surprise, mais avec des flèches, si démesurées aient-elles pu être. Ils avaient face à eux un vaisseau de plus de 700 hommes, embarquant 84 canons, bien suffisant pour se débarrasser de leurs assaillants et potentiellement raser l'île dans son entièreté. Et pourtant, ils avaient privilégié la fuite. Cela n'avait pas de sens. Le capitaine Howard avait-il voulu essuyer cet affront avec notre attaque? S'était-il senti honteux? Cela ne lui ressemblait guère. L'homme qui gouvernait sur le Médusa n'était pas du genre à se perdre dans des revanches personnelles, surtout pas au risque de perdre des membres de son équipage. Il n'y avait rien de plus sacré pour lui que la santé et la sécurité de ses hommes.
Peut-être son capitaine de l'époque avait-il opté pour cette solution, ne comprenant pas l'origine de l'attaque, ou ignorant tout de ses auteurs. Toutefois, cela n'expliquait toujours pas pourquoi des marins chevronnés et habitués à l'horreur des batailles avaient choisi de fuir. Ces eaux n'étaient pas inconnues des navigateurs, et cette île non plus. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à une autre raison pour expliquer cette fuite. Une raison plus impérieuse qu'une attaque à coups de flèche. Une raison que le capitaine avait gardée sous cap. Ce qui, encore une fois, ne lui ressemblait pas. Dans la baie, je pouvais voir la silhouette majestueuse du Médusa qui se découpait dans la pâle nuit. J'avais hâte d'y reposer les pieds et de m'éloigner de cet endroit. Je pris un instant pour apprécier la fraîcheur des embruns. L'air salé repoussa mes cheveux en arrière, et alors que j'attrapais de quoi les rattacher, un mouvement furtif attrapa mon regard. C'était très ténu, très bref, mais face à moi, sous les vagues, des formes indistinctes filaient sous les flots. On aurait pu croire à un banc de poissons glissant et virant sous l'écume. Pourtant, je devinais rapidement qu'il ne s'agissait pas de cela, tout simplement parce que ces poissons-là étaient beaucoup trop massifs. L'une de ces formes creva brièvement la surface de l'eau, sans doute pour reprendre sa respiration, et dévoila sa vraie nature. C'était l'un de ces monstres, de la même race de ceux que nous avions massacrés sur la plage. Et cela, tout en glissant sous l'eau, se dirigeait droit vers le Médusa. Je restais figé peut-être quelques secondes avant de me saisir de mon pistolet et de tirer un coup de feu en l'air. Derrière moi, j'entendis le bruit de course des hommes, alarmés par mon coup de feu. Je tendis le doigt en direction de l'eau. L'un d'entre eux se précipita en direction du navire, soufflant de toutes ses forces dans son sifflet d'alerte, alors que les autres mirent en joue les formes sous les vagues. Il y eut alors une série de détonations assourdissantes et l'air se chargea de l'odeur capiteuse de poudre brûlée. Quelques-unes de ces créatures, conscientes d'avoir été découvertes, prirent un brusque virage et foncèrent vers la plage et crevèrent les vagues pour se présenter face à nous. Les hommes autour de moi retinrent leur souffle. Si la dépouille que nous avions trouvée sur la plage nous avait déjà emplis d'une terreur froide, voir ces monstres bien vivants, leurs mâchoires de crocodile claquant d'un bruit sec et terrifiant, maniant leurs armes rudimentaires face à nous, manqua de nous faire fuir. Ces rejetons des enfers marins venaient venger leurs frères tombés. Le capitaine Howard se détacha de notre groupe pour se présenter face à nos assaillants. Lentement, il sortit sa lame de son fourreau et fit signe à ses démons de s'approcher. À quelques distances, des coups de feu éclatèrent, couvrant brièvement le bruit des vagues. Les hommes sur le Médusa étaient attaqués à leur tour, mais nous savions qu'ils défendraient chèrement leur vie, et nous, devions sauver les nôtres. Après un grognement sourd, les créatures se jetèrent sur nous, brandissant leurs lances. Toutefois, nos soldats avaient été plus prompts à réagir, et avaient déjà rechargé leurs mousquets. Ces derniers hurlèrent alors toute leur fureur, crachant leur cruelle cargaison de plomb. Je vis la chair des démons être déchirée par la pluie de balles. Puis le capitaine, brandissant sa lame, lança l'attaque. La trentaine d'hommes du Médusa rejoignirent leur chef dans sa brutalité guerrière, leurs épées au-dessus de leur tête et se jetant dans la mêlée, oubliant la peur que leur inspiraient ces démons. Du haut de mes 15 ans, je fus également envahi par la brutale chaleur du combat, ma main se crispant sur le manche de mon arme. À l'image de mes camarades, je hurlais d'une voix qui me sembla bien plus grave que d'accoutumée, une voix qui n'appartenait plus à un enfant, une voix qui avait désormais perdu toute trace d'innocence. La mêlée se regroupa avec fureur, le choc des lames se mélangeait aux hurlements belliqueux et aux cris des blessés et des agonisants. Ma science des armes était presque inexistante, n'ayant reçu que des rudiments d'enseignement en la matière, je pouvais faire parler mon agilité et ma vitesse. Ces deux atouts me sauvèrent la vie car mes adversaires, tout en puissance et en muscles, s'avéraient plutôt lents. De plus, leur science du combat ne fut jamais à la hauteur de celle des soldats du Médusa. Leur apparence repoussante avait sans doute fait en sorte par le passé de faire fuir les assaillants, ne leur donnant jamais vraiment de raison de se battre pied à pied. La bataille sur la plage tourna à notre avantage assez rapidement. Les monstres écailleux se défendirent de leur mieux, avant de progressivement se retirer en direction de l'eau. Avant de disparaître dans la mer, le dernier d'entre eux se retourna pour nous toiser et poussa un dernier hurlement lugubre. Le cri avait été si puissant que nous tombâmes alors tous à genoux couvrant nos oreilles. Le son modulant, oscillant entre le sifflement suraigu et l'appel d'animal blessé et désespéré, resta gravé dans ma mémoire. Car ce cri que nous pensions être d'abord un cri de retraite devait devenir le signal de notre mort à tous. Je me relevai de ma prostration, la tête encore vrombissante,
et aperçut les êtres ayant attaqué le Médusa s'enfuir à leur tour, se jetant du bastingage pour disparaître dans les eaux, rendues noires par la nuit. Depuis le navire, les cris de joie et les sifflements des marins se firent entendre. Quelques secondes plus tard, des soldats sur la berge leur répondirent par de nouvelles exclamations. Le capitaine Howard, tout sourire, se mêla à la liesse, brandissant son sabre vers le ciel d'encre. Toutefois, il se tourna vers moi, ses yeux cherchant quelque chose dans l'obscurité. « Garçon, va chercher les retardataires. Rester ici nous expose. Qui sait combien de ces choses sont encore là à nous observer derrière les arbres. Nous n'avons pas gagné la guerre, simplement un peu de temps. Va !» Le ton impérieux ne souffrait aucune discussion, mais il avait raison. Nous ne pouvions pas savoir s'ils étaient plus nombreux et peut-être déjà en train de préparer une nouvelle attaque. Je me précipitai à la rencontre des soldats restés à l'arrière. Baisser notre garde maintenant pouvait encore nous coûter très cher. Je revins sur mes pas pour m'arrêter brusquement dans ma course. Quelque chose clochait. Les dépouilles des monstres que nous avions tués un peu plus tôt avaient disparu. Il ne restait plus sur le sable que des traces humides où ils s'étaient vidés de leur sang, mais pas de corps, nulle part. Plus étrange encore, les hommes restés en arrière avaient disparu également. Ils avaient pourtant reçu l'ordre de ne pas bouger et de garder un œil sur les dépouilles que le capitaine voulait inspecter plus avant, une fois de retour sur le bateau. Je les hélais à plein poumon, et mes appels se perdirent dans la nuit ne recevant aucune réponse. Face aux arbres, je ressentis alors une étrange oppression. Elle semblait émaner de toute l'île, comme si cette terre émergée dans son ensemble se réveillait pour affronter ceux qui l'envahissaient. Inconsciemment, j'avais reculé d'une dizaine de pas, comme si un prédateur furieux me faisait face, montrant les crocs et grondant sourdement. La terreur m'envahit alors qu'une bourrasque d'air chaud vint me frapper le visage, portant avec elle une odeur méphitique, semblable à celle des créatures que nous avions trouvées sur cette île maudite. Le remugle d'ozone et de chair avariée m'enveloppait complètement, me donnant la nausée. Et alors que je tentais au mieux de contenir un haut le cœur, une vibration sonore me parvint. Un son caractéristique de tambours et de percussions provenant de la partie orientale de l'île faisait vibrer frénétiquement l'air. Était-ce là un appel au rassemblement ou un appel à l'aide? La panique me gagnait encore davantage, je détalai en direction du capitaine et du canot qui devait nous ramener à bord du Médusa. Mais alors que les hommes repoussaient les embarcations dans l'eau, une nouvelle bourrasque plus chargée encore de relents pestilentiels répondit à la première, cette fois provenant de la mer. Comme si quelque chose au plus profond des océans avait entendu la complainte de ces monstres et se précipitait à leur secours. Le son des tambours s'était évanoui progressivement après la réponse de l'océan. Comprenant que leur appel à l'aide avait été entendu, les musiciens démoniaques hurlèrent alors leur joie de cette même voix qui nous avait paralysés un peu plus tôt. Encore une fois, nous couvrîmes nos oreilles à l'écoute de ces voix insupportables. Nous embarquâmes dans les canots et ramâmes comme des damnés jusqu'au Médusa. Dans notre précipitation, le capitaine ne s'enquit pas même des hommes qui avaient disparu. À peine le pied posé sur le bois du pont, il lança ses ordres d'appareillage. Et alors que les hommes s'activaient sur tout le bâtiment, une vague étrangement puissante vint frapper la coque, nous déstabilisant tous. Répondant à mon instinct, je grimpai le long de l'échelle de corde pour tenter de comprendre d'où venait ce brusque ressac. Suspendu dans les airs, je pus alors assister au spectacle formidable et terrifiant que m'offrait l'océan. Alors que les eaux étaient calmes quelques minutes plus tôt, la houle s'était brusquement réveillée, les bourrasques menaçant à chaque instant de faire tomber les hommes qui déployaient les voiles du navire. Nous parvînmes à nous arracher à notre position statique, nous éloignant petit à petit de cette terre de cauchemar. Mais l'océan, lui, semblait décidé à ne pas nous laisser nous échapper. Le capitaine tentait de son mieux de s'éloigner de la terre émergée, conscient que le danger n'était pas représenté que par des flèches ou des lances. Sa crainte était de voir le navire s'empaler sur un récif, et il savait que cette île pouvait s'avérer très dangereuse pour les navigateurs inexpérimentés. Sur son pourtour nord et ouest, les récifs à peine visibles étaient déjà à l'origine de plusieurs accidents mémorables. Seulement, les courants traîtres de l'océan Indien n'étaient pas les seuls à vouloir nous repousser vers les formations rocheuses, condamnant le navire et tous ses hommes. Il y avait quelque chose d'autre à l'œuvre, car il était impossible que la mer grossisse ainsi en quelques instants. Quelque chose avait, de fait, répondu à l'appel des tambours des monstres de l'île, et c'était cette même chose qui nous attaquait désormais, cherchant par tous les moyens à nous envoyer par le fond. La lune avait disparu. D'épais nuages noirs s'étaient progressivement regroupés et nous empêchaient désormais de voir au-delà de quelques pieds autour du navire. Nous étions perdus, suspendus dans un espace d'encre dont nous ignorions tout. Le seul repère qui nous permettait encore de nous raccrocher au monde réel était l'île qui semblait nous narguer, nous défiant de nous approcher et d'y chercher un quelconque refuge. Je pouvais voir le capitaine se tordre le cou pour observer le ciel et tenter de retrouver les étoiles qui lui auraient permis de retrouver sa route. Mais on ne pouvait rien voir. Il prit alors la décision de mettre les voiles et de s'éloigner le plus rapidement de ce lieu maudit. Sans doute pensait-il alors que si le navire s'éloignait suffisamment, la menace invisible qui pesait sur nous disparaîtrait, comme si les monstres et leur magie ne pouvaient effectivement nous ensorceler que s'ils avaient un contact visuel. Sans doute ces réflexions avaient-elles un sens à ce moment-là. Le capitaine ne pouvait pas savoir alors ce à quoi nous devrions faire face. Quelques instants plus tard, un hurlement sinistre se fit entendre. Notre vigie postée dans son nid du grand mât semblait pointer quelque chose du doigt, puis se prit la tête entre les mains, comme s'il était attaqué par un ennemi invisible, assaillant son esprit de quelque cauchemar indescriptible. Dans son agitation, il perdit l'équilibre et chuta, hurlant toujours sa détresse, avant de s'écraser au sol. Par réflexe, je déportai mon regard dans la direction que le malheureux désignait un instant plus tôt. Je plissai les yeux au plus fort, tentant de percer les ténèbres autour de nous, mais je ne pouvais discerner que des nuages dans lesquels perçaient parfois des éclairs distants et sourds. À nouveau, des cris glaçants percèrent l'atmosphère. Plusieurs hommes sur le pont, comme la vigie un peu plus tôt, s'étaient pris la tête dans leurs mains, hurlant à plein poumon comme s'ils subissaient la pire des tortures. Sous le regard de l'équipage abasourdi, l'un d'entre eux se saisit de son sabre et s'ouvrit la gorge sans hésiter une demi-seconde. Un autre utilisa son mousquet en se le plaçant dans la bouche. Trois autres se jetèrent dans les eaux tumultueuses. Je pouvais voir le capitaine tourner la tête en tous sens, ne comprenant plus rien à ce qui arrivait. À ses côtés, son second se mit également à hurler, se saisissant de la dague à sa ceinture. Il n'eut pas le temps de sauter la vigue car le capitaine fut le plus rapide, ce dernier assommant son second d'un coup de poing dans la mâchoire. L'équipage sombrait dans la folie, saisi d'une terreur suffisante pour que ses membres se jettent dans l'océan où s'ouvre la gorge. M'arrachant à cette vision sordide, j'essayais à nouveau de percer les ténèbres qui nous entouraient. J'étais persuadé que l'origine de cette folie se trouvait là, à proximité, nous observant avec malice et perversion. Puis, enfin, à la faveur d'un éclair, j'aperçus une silhouette à travers les nuages. Il me fallut quelques instants pour comprendre ce que je voyais, persuadé que, comme les autres, mon esprit me jouait des tours et qu'à tout instant, je serais pris du besoin irrépressible de m'ôter la vie. Pourtant, toujours suspendu dans le vide, les cordes me dévorant les chairs, je ne pouvais détacher mon regard de ce spectacle extraordinaire et terrifiant. La forme mouvante et titanesque se trouvait derrière l'île, comme si elle voulait la protéger. Sans pouvoir discerner ses traits, je pouvais apercevoir une forme centrale vaguement sphérique. Rattachée à cette sphère, serpentant dans les airs, des tentacules massifs l'entouraient comme une couronne. Cette chose était grande, comme 10 fois l'île, flottant dans les airs comme si elle s'apprêtait à nous fondre dessus. Dans l'air mouvementé, je discernais une voix qui n'avait strictement rien d'humain. Elle provenait de ce titan monolithique protecteur de l'île. Il s'agissait d'un dialecte auquel je ne comprenais rien. Je pouvais ressentir toutefois toute la menace qui transpirait de ce son inhumain. La voix me transperçait de part en part, vibrant dans mon esprit. Je pouvais le ressentir dans mon âme, un œil gigantesque qui m'observait, un organe qui ne pouvait trouver son origine dans ce monde. Je pouvais comprendre toute l'hostilité que cet être avait pour nous, nous qui avions attaqué ses enfants et ses adorateurs. J'étais à nu devant un être millénaire qui souhaitait plus que tout nous voir disparaître. Brusquement, je me retrouvai à nouveau accroché à ma corde, la grippant désespérément pour ne pas chuter. La transe avait été interrompue par un acte héroïque du capitaine. Ce dernier, tout comme moi, avait vu la chose colossale, flottante dans les airs, et avait compris qu'elle était l'ennemi. Malgré la panique, malgré la terreur qui le paralysait, il avait trouvé la force de rejoindre les unités des servants de canon et avait ouvert le feu. Par bonheur, les hommes restés à l'intérieur du navire ne semblaient pas avoir subi les assauts de l'horreur au-dessus de l'île.
Ainsi, bien qu'ils se demandaient ce qui se passait dehors, le ton du capitaine leur fit comprendre l'urgence de la situation. Ils armèrent les batteries bâbord du Médusa et, sans réfléchir, obéissant à leur capitaine, avaient déclenché la fureur du feu et de métal des canons. Je redescendis de ma corde à l'instant où la chose disparut et me précipitai dans les soupes pour rejoindre le capitaine. L'homme était méconnaissable. Voûté, une partie de sa chevelure brune avait viré au blanc. Il peinait à respirer et s'appuyait sur mon épaule pour remonter sur le pont. Nous levâmes nos yeux vers le ciel. Les nuages se morcelaient lentement, nous révélant notre carte de navigation stellaire. Merci, Éol. Ne perdons pas plus de temps, gamin. Nous retournons à Port Blair. Le soulagement que j'éprouvais alors que le Médusa prit le vent pour s'éloigner fut immédiatement suivi de ma perte de conscience. La fatigue couplée à la terreur éprouvée eut raison de moi. Une fois arrivé à Port Blair, je fus envoyé à l'Hôtel Dieu, brûlant d'une fièvre tenace. J'appris après mon réveil que le capitaine Howard était resté à mon chevet durant les 4 jours de ma soudaine maladie. Lui-même avait été grandement affecté par notre rencontre avec le gardien de l'île. J'avais brièvement aperçu ses cheveux blancs qui lui étaient apparus, mais je réalisais que ces changements allaient bien plus loin que ça. En fait, le capitaine Howard ne revit jamais l'Angleterre. Le Médusa resta à quai durant 2 semaines supplémentaires. Notre rencontre avec les monstres de l'île puis avec leurs protecteurs avait causé des dommages assez importants et le navire ne pouvait reprendre sa route vers notre terre natale. Malgré l'urgence de la situation, nous étions désespérément coincés sur Port Blair. Le capitaine était victime d'un mal similaire au mien, mais il semblait que dans son cas, la fièvre était plus pernicieuse. Il succomba à la veille de la fin des réparations, délirant et hurlant sur cette petite couchette à des milliers de miles de sa chère Londres. 2 jours avant sa mort, il me fit appeler à son chevet. Il fut lucide pour la majorité de notre entretien, même si par moments ses yeux se perdaient dans le vague et s'écarquillaient, pris dans une terreur indescriptible. Je ne reverrai jamais l'Angleterre. J'en suis maintenant persuadé. Je ne fais que sombrer dans un abîme toujours plus profond, toujours plus noir. Et je sais qu'il m'y attend. Je peux voir cet œil incandescent me fixer, désirant ma mort plus que tout au monde. Je ne sais pas d'où il vient ni pourquoi il a décidé de s'établir dans notre monde, mais il est clair que nous ne sommes plus les maîtres des océans. Il doit prévenir les autorités de la Royal Navy et leur dire de ne plus envoyer de vaisseaux dans cet endroit. Nous les perdrions à coup sûr. Je t'y envoie car tu l'as vu. Tu as vu cette chose comme moi, je la vois chaque fois que je ferme les yeux. Toi seul peux témoigner de cette horreur et de la réalité de ce que nous avons vécu. Je promis au capitaine d'exaucer son souhait. Toutefois, après son décès et alors que le Médusa s'apprêtait à appareiller, je réalisais que je ne pouvais pas mettre pied sur le pont du navire sans entrer dans un état de panique incontrôlable. Mon corps semblait m'interdire de m'approcher de cette vaste étendue d'eau. J'étais immédiatement pris de vertige et de nausée, mes jambes tremblaient au point de ne plus supporter mon poids. Après plusieurs tentatives, je ne pouvais plus nier la réalité. Je ne mettrai plus jamais les pieds sur un navire. Tout mon corps rejetait jusqu'à l'idée même de naviguer à nouveau. Ainsi, le lendemain, j'assistais le cœur lourd au départ du Médusa. Mes anciens camarades ne cessèrent d'agiter leurs chapeaux et de crier leurs encouragements à mon égard que lorsque le navire disparut derrière l'horizon. Padraig avait d'ailleurs voulu rester avec moi à terre. Je l'en décourageais toutefois car le navire aurait besoin de lui et je lui promis que nous nous retrouverions une fois que je reviendrai dans notre quartier de Whitechapel. Le voyage de retour me prit presque une année entière. Étrangement, je réalisais pendant ce trajet que j'avais besoin de temps pour pleinement réaliser ce que nous avions vécu, ainsi que pour préparer mon plaidoyer vis-à-vis de la commanderie. Je devrais expliquer pourquoi un officier avait succombé et pourquoi nous devrions désormais éviter cette île à l'ouest de l'archipel d'Andaman et Nicobar. Lorsque je retrouvai Londres et que je tentais de retrouver mes anciens camarades de navigation, j'appris que le Médusa avait coulé quelques semaines après être revenu à bon port. Lors d'une bataille dans les eaux scandinaves, un navire de guerre français avait détruit sa ligne de flottaison, ne laissant aucune chance à l'équipage. Je retournai la mort dans l'âme à mon quartier de Whitechapel. Il ne restait plus personne désormais.
Il n'y avait plus aucun témoin de notre attaque de l'île et de notre rencontre avec son protecteur. Pourtant, comme si la vie me récompensait de mon long périple, je vis une silhouette familière se diriger vers moi alors que je retrouvais mon quartier natal. Padraig, tout sourire et les yeux baignés de larmes, ne me laissa même pas le temps de réaliser ce qui arrivait. Il me saisit de ses bras puissants et m'offrit une accolade dont je me souviendrai toute ma vie. Mon ami de toujours, une fois revenu à Londres, décida de quitter l'équipage. La mort du capitaine, de nos camarades et mon départ brutal l'avaient marqué et il se réinstalla dans ce quartier sinistre, persuadé que j'y reviendrais. Ainsi, je me rendis le lendemain à l'amirauté et remis mon rapport. Je quittai le bâtiment rapidement, ne souhaitant pas être trop longuement questionné, sachant que je n'aurais aucune réponse satisfaisante à donner. Padraig et moi quittâmes Londres le lendemain, souhaitant nous éloigner le plus possible des côtes. Plutôt que d'explorer les mers et les océans, nous décidâmes de travailler la terre. Nous n'évoquâmes que très peu notre passé dans la marine. Même lorsque nous rencontrâmes celles qui deviendraient nos épouses, nous avions déjà décidé de ne plus parler de l'île. Padraig n'avait pas vu ce que j'avais vu. Il conservait encore cette idée que nous avions vaincu les monstres de l'île et qu'un vaisseau hostile nous avait attaqués. Je m'étais juré qu'il n'en saurait rien et que personne d'autre n'en saurait rien. Si la sagesse habitait effectivement les gradés de l'amirauté, il n'enverrait plus de vaisseau dans cet endroit. Cette force protectrice détruirait tout ce qui s'approcherait. Mais il ne s'agissait là que d'une seule et minuscule portion d'un monde beaucoup plus grand. Qui sait ce que nous pourrions trouver et déranger dans ces endroits que nous n'avons pas encore explorés? Et que se passerait-il si cette fois cette force ne se contenterait pas de protéger une petite île? Que se passerait-il si ces forces se décidaient à attaquer? Quelle serait notre place dans ce monde-là ?